La science-fiction s'épanouissait, mais la science aussi, tant et si bien qu'il devenait toujours plus difficile de déterminer, dans la première, où finissait la science et où commençait la fiction. Il y eut les V2, le radar, le sonar, puis la bombe A, qui fit douter les gens des limites de la science, l'énergie atomique. Déjà, les fusées expérimentales grignotaient l'espace et s'élevaient plus haut que l'atmosphère, au-dessus du désert de White Sands, dans le Nouveau-Mexique. Vint ensuite la bombe H, puis les soucoupes volantes. Bien sûr, nous savons maintenant ce qu'elles étaient, mais à l'époque, on crut fermement que leur origine était extraterrestre. Le sous-marin atomique, la découverte du Mézite en 1963, la théorie de Barner prouvant la fausseté de celle d'Einstein et la possibilité de vitesse supérieure à celle de la lumière. Maintenant, n'importe quoi pouvait arriver et un grand nombre de gens s'y attendaient. L'hémisphère occidental n'était pas seul affecté. Partout, on devenait prêt à tout admettre. Il y eut le japonais de Yamanashi, qui prétendit être lui-même un martien et se fit tuer par une foule en délire qu'il avait cru. Il y eut les révoltes de 1962 à Singapour, et il est reconnu que la rébellion des Philippines l'année suivante fut suivie chez les Moros d'un culte secret dont les adeptes disaient être en communication mystique avec les Vénusiens et agir conseillés et guidés par eux. Et en 1964, il y eut le cas tragique des deux aviateurs américains qui durent faire un atterrissage forcé avec leur stratojet expérimental. Ils se posèrent juste au sud de la frontière et furent instantanément massacrés avec enthousiasme par des Mexicains qui, les ayant vus descendre de leur appareil avec leur tunique gravitique et leur casque à oxygène, les avaient pris pour des martiens.